des archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
T'as vu, franchement, je ne suis pas, moi, diplomate, donc pas politicien, parce que je ne mâche pas mes mots. Je n'ai pas appris à mentir. Je préfère l'action à la parole.
Cette posture d'homme d'action, il va la prouver en changeant irrémédiablement le paysage politique nigérien au moment où, par le hasard de l'histoire, il en devient le président. Le monde découvre alors cet officier affable qui, jusque-là, avait évolué dans l'ombre de son mentor Sénie Kouché. Cette fois-ci, Ali Chebou est le chef. Il tient les rênes du navire Niger. Même si les médias et les manuels d'histoire l'ont presque ignoré, ce n'était pas un grand orateur, c'est vrai. Les 6 ans qu'il a passés à la tête de ce vaste ensemble sahélien auront ouvert une nouvelle ère, celle de la décrispation comme on l'a appelée. C'est à lui que nous consacrons cette série d'archives d'Afrique.
Nigérien, Nigérienne, en ma qualité de chef d'état-major général des forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division Sénie Kouché, n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi à 15h15 à Paris. Devant cette dure épreuve, je vous demande de garder votre calme et votre sang-froid. Les forces armées nationales et le gouvernement continueront de veiller à la paix et à la sécurité de notre cher pays. Un deuil national d'un mois sera observé. Les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du pays.
Après plus de 13 ans à la tête du Niger, le président Sénie Kouché, qui a dirigé son pays comme on mène une armée, a finalement été emporté par la maladie. Et celui qui annonce ainsi son décès, peu connu du grand public, mais très présent, très proche du défunt chef de l'État, en tant qu'officier le plus gradé et le plus ancien, va prendre sa place. Il est désigné par le Conseil militaire suprême, le CMS, l'organe le plus important, qui dirige le Niger depuis 1974.
Les officiers des forces armées nationales, réunis en séance solennelle ce samedi 14 novembre 1987, décident à l'unanimité et par acclamation de confirmer au poste de président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, le colonel Ali Seibou, fait à Niamey le 14 novembre 1987, les officiers des forces armées nationales. Merci.
Vous avez demandé qui suis-je. C'est à moi de vous demander qui suis-je. Je peux vous dire que je m'appelle Ali Seibou. Ali, c'est le nom de mon père. Seibou, c'est mon prénom. Je suis né donc tout vert, 1940, à Dindajibanda, qui est dans l'arrondissement, maintenant le département de Olam.
Le jeune Ali Seibou, qui naît donc vers 1940 et qui appartient à l'ethnie Zerma, va suivre ses études primaires dans sa région de naissance de Olam. L'école ne le passionne pas vraiment. Il va quitter son pays en 1954 pour entrer à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis du Sénégal. 2 ans plus tard, il rejoint le 1er régiment des tirailleurs sénégalais. Il va ensuite être affecté à la 3e brigade, puis au 18e bataillon d'infanterie de marine. En 1957, le pouvoir colonial doit faire face à une rébellion nationaliste particulièrement forte au Cameroun. Le maquis d'Oumniobé, qui a une implantation nationale, résiste aux forces françaises qui veulent le mettre au pas. Pierre Mesmer, le gouverneur, va décider de passer à la vitesse supérieure. Il faut mater cette rébellion, cette fois-ci par la terreur.
Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. il était hors la loi. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après les petits groupes de Murbet.
Pour réprimer les maquisards, l'armée coloniale va amener de l'Afrique occidentale ou du Tchad ses meilleurs tirailleurs. Ils sont Mossi de Haute-Volta, Bambara du Mali ou du Sénégal, Sara du Tchad ou Zerma du Niger. Les mêmes qui hier libéraient avec les troupes camerounaises de Leclerc la France occupée. Maintenant, ils pourchassent dans les forêts les nationalistes. Ils ont ordre d'abattre tout cela qui exige tout simplement l'indépendance. Ali Chebou va être affecté au 5e régiment interarmé outre-mer en 1960. Oumiobé a déjà été assassiné. Mais il va participer aux opérations de ratissage à la guerre qui s'est déplacée dans l'ouest du Cameroun. C'est dans cette région qu'il va être blessé lors des combats.
Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Presque un an après la proclamation de l'indépendance du Niger, plus précisément le 1er août 1961, Ali Chebou, comme tous les autres soldats de la coloniale, est reversé à l'armée nigérienne. Il a à ce moment-là le grade de sergent. Très rapidement, il va se trouver à la tête de la 4e compagnie motorisée de Guigui en 1969, puis du centre des instructions de Toudibia. Il prendra le commandement de la 2e compagnie saharienne motorisée à Agadez en 1973. L'officier ne va pas arrêter dans le même temps de se former. Il est ainsi admis au cours des officiers de Fréjus en France, à celui des officiers d'infanterie de Montpellier en décembre 1970, et même à l'école d'état-major d'infanterie de Paris l'année d'après. Le pays situé à la porte du désert du Sahara est dévasté par une terrible sécheresse qui naturellement entraîne la famine. Ce qui a pour effet de rendre de plus en plus impopulaire le régime du président Diori Amani. On accuse certains responsables politiques et barons du régime de profiter de cette sécheresse pour s'enrichir. Au sein de l'armée aussi, la colère commence à gronder. L'idée d'un coup de force germe alors dans l'esprit d'un officier. Il s'appelle Idrissa Haruna, Cheikh Amadou Oumarou dit Bonkano, qui va se joindre plus tard à ce complot.
Le renverser le président Diori a été deux étapes. Idrissa Haruna, qui avait contact avec certains sous-officiers, en 1969, déjà, premier coup, était en préparation, Kounké, lui, était absent. Et cela a eu quelques bruits parce que c'était des jeunes gens. C'est là où nous avons perdu certains sous-officiers, dont Mahmoud Souna de Terra, et ça nous a un peu arrêté, ça a retardé un peu, et puis on s'est calmé. Mais entre-temps, Kounké est rentré, et Idriss a décidé de le mettre donc, dans le circuit, et il a accepté rarement parce qu'il y avait RDA, Sawaba, et donc son père était de côté de Sawaba, était arrêté, frappé des années et des années. Et quand il est libéré, il est rentré, il est devenu chef de canton de Damana. À peine 2-3 mois, il est décédé. Donc il avait cette crainte-là de se mêler directement à César des opérations.
En tout cas, c'est Kounké et Idrissa Haruna qui partagent le même point de vue sur l'incapacité du régime à voler au secours du peuple entre dans la phase d'organisation du putsch, non sans une certaine réticence de Séni Kountché. Mais l'actualité va avoir raison de ses dernières hésitations. Cheikh Amadou Oumarou dit bon canon.
Entre-temps, quelque chose s'est passé au Mali. Comme il est de la génération de Moussa Traoré, ils ont fait ensemble à Kati, ainsi que Krékou, Lamizana. Donc toutes ces générations-là avaient mis l'armée sur le pouvoir et puis il a été excité. Il m'a été présenté par un certain capitaine Harouna, Idrissa Harouna, qui est actuellement colonel en retraite. Et cette présentation a été dans une circonstance assez privée, j'aurais dit, puisque c'est son épouse qui est tombée malade. Et directement, Idriss, avec qui j'avais contact, a décidé de me parler de l'affaire. Au moment où nous avions pu sauver la femme, c'est en ce moment qu'il a eu énorme confiance d'être avec nous. Et nous avons décidé de faire quelque chose de très difficile, c'est-à-dire amis à trois personnes.
Pour avoir les esprits de leur côté, élément important dans leur environnement, les deux officiers décident d'associer le bouillant Bonkano à leur projet.
Vous savez, en Afrique, on ne peut rien engager sans consulter soit un marabout, soit un féticheur, soit un esprit. Parce que c'est dans les mœurs des Africains. Il se trouverait que Bonkano, à cette époque-là, avait quand même un certain secret. Et pas un secret vraiment négligeable. Donc, personnellement, j'avais une confiance aveugle envers Bonkano.
Idrissa Harouna.
En décembre 1969, nous nous étions rendus, Séni Kountché et moi, dans le village de Bonkano. Et nous avions évoqué un changement de régime. Et nous souhaiterions que l'esprit que Bonkano détient puisse nous aider dans notre œuvre. Et à cette époque-là, c'était en décembre 1969, il nous avait demandé une somme de 100 000 francs. Aucun d'entre nous ne disposait de cette somme-là. Séni Kountché, en tant qu'adjoint au chef d'état-major, a vu l'intendant auprès duquel il a pris un bon et nous avons remis la somme pour notre œuvre que nous comptons entreprendre.
Rencontre après rencontre, le plan du putsch prend forme. Il faut fixer une date pour passer à l'action. Encore une fois, les officiers s'en remettent au marabout, ou du moins à celui qui en fait office dans le groupe, Bonkano. Sans le dire à ses compères, il choisit pour l'opération la date de son anniversaire et justifie ce choix par la volonté des esprits. Coup du destin ou coup du sort qui va conforter Bonkano et le crédibiliser un peu plus auprès de ses amis. En France, à cette même période, le président Georges Pompidou décède des suites d'une longue maladie.
Office de radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau, il est 6h. Des informations, Patrick Lecoq.
Bonjour. La France vit depuis hier soir à nouveau des heures graves. Le président de la République, M. Georges Pompidou, est mort. En raison des circonstances, l'Office de radiodiffusion télévision française diffuse donc un programme unique sur l'ensemble de son réseau, France Inter, France Culture, France Musique et FIP. 21h58, sur nos téléscripteurs hier soir, la nouvelle est tombée, brutale et sèche. Le président Georges Pompidou est mort. Suivait peu après un bref communiqué signé du professeur Vignaloux. Le président de la République s'est éteint à 21h dans son appartement du quai de Béthune.
Avril 1974, le projet de putsch est fin prêt. Les officiers qui ont rejoint le petit groupe ont reçu chacun leur mission. Les points névralgiques et les institutions sensibles, de même que les casernes, doivent être neutralisés. Ali Chebou fait partie des officiers qui y participent.
Mon objectif était de m'emparer de la radio et d'aller tenir Tandibia, qui est le centre d'instruction ici. Et je crois que c'est une mission qui a été bien accomplie.
Des troupes d'élite de Niamey sont chargées de prendre la présidence. Au lendemain du putsch, marqué donc par la mort de Aïssa Diori, Séni Kountché remercie les députés et dissout le parti unique. La junte de 13 hommes qu'il dirige, baptisée Conseil militaire suprême, prend les rênes du pouvoir. Ali Chebou.
C'est un groupe d'officiers qui détiennent certaines zones de responsabilité, qui se consultent sous la présidence du chef de l'État et qui essaient quand même de voir les gros dossiers du pays.
Séni Kountché au pouvoir, Ali Chebou est nommé ministre de l'économie rurale, du climat et de l'aide aux populations. À ce poste, il va très rapidement gagner la sympathie des populations rurales à qui il distribue les céréales. Une position particulièrement stratégique dans ce territoire brûlé par le soleil où la famine frappe régulièrement les zones rurales. Midou Koudou, un de ses amis.
Et d'ailleurs, à l'OPVN, il les visite et presque chaque samedi. Hein, et il s'assure pendant la récolte d'aller sur le terrain et donner des ordres à ce que les autorités achètent d'abord les productions, les récoltes, avant que les commerçants ne se jettent pour un prix élevé. Mmh. Voilà son idée d'opération.
La même année 1974, Ali Chebou est nommé au mois de décembre chef d'état-major des forces armées nationales. Il va en devenir le chef d'état-major général 2 ans plus tard. Une marque de confiance de Séni Kountché qui pourtant écarte et élimine peu à peu ses amis. Ceux avec qui il a perpétré le putsch de 1974. Après près de 10 ans à la tête du Niger, Séni Kountché s'est fait un nom sur la scène internationale. Dans cette période où l'instauration de la démocratie n'est pas la priorité des grandes puissances, il est parvenu à instaurer un régime fort, voire autocratique. Mais la stabilité du régime qui contribue à sa bonne image de marque n'est pas à toute épreuve. En septembre 1983, il règne une curieuse ambiance dans les milieux policiers et militaires de la capitale nigérienne. Très secrètement, des officiers se rencontrent de l'autre côté du fleuve, chez Bonkano, que le président a chargé depuis plusieurs années déjà d'entretenir à coups de liasses de CFA les militaires. Il faut préciser qu'enrichi par des contrats juteux très complaisants offerts par son ami le président Kountché, le richissime et tout-puissant Bonkano est la cassette qui achète la docilité des officiers. Jean Poisson, ancien directeur de cabinet du président Kountché.
Il tenait les officiers par l'argent. Quand un officier a un problème chez lui, la femme, un baptême, une mort, Kountché est toujours là pour banquer. C'est une grosse somme d'argent qu'il jette auprès des militaires.
Conforté auprès des officiers avec qui il a tissé des liens, l'homme de confiance du président, Cheikh Amadou Oumarou Dibonkano, croit son heure venue. Il faut qu'il prenne le pouvoir.
C'est que certains pensaient, de toute façon, c'était la fin du régime. Il fallait trouver une pièce d'échange. Sinon, on ne s'en sortira pas et tout ça là. Bon, ben, ils en parlaient seuls jusqu'à ils ont amené ça chez moi. Et en même temps, le menace de famille qui a fait, moi et Kountché, 3 ans, on maîtrisait ça, on a arrivé où nous-mêmes, on ne pouvait plus maîtriser ce que la société civile disait, et sa famille, et tout ça là, et sa maladie. Et il a été, on était un jour, donc, de m'annoncer la maladie. Une fois il a annoncé ça, d'esprit, regardez bien ce qui peut m'arriver, s'il disparaît sur place et que je suis sur ce terrain-là, nous avons décidé donc de donner réponse à certains officiers qui réclamaient qu'on les carte.
Ali Chebou, le chef d'état-major général des armées, informé de la préparation de ce complot, va-t-il pouvoir interpeller ce personnage aussi proche du chef de l'État? Va-t-il obtenir le feu vert du président pour le neutraliser? Lui qui est considéré comme son homme lige. A-t-il les coudées franches pour neutraliser les officiers putschistes? Nous en parlons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée au général Ali Chebou. Dans une dizaine de minutes. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal du RFI. Restez à l'écoute.
Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous sommes réunis à Lomé et partout dans les forums nous avons défendu nos matières premières, que ce soit le cacao ou l'uranium. Ce qu'on demande, c'est de nous payer à juste valeur nos produits.
Il n'était pas un politique, c'est certain. Ce n'était pas le grand tribun, l'orateur qui soulève les foules. C'est peut-être pour cela que les médias ne lui ont pas accordé une place importante, n'en ont pas fait un héros, une icône. Pourtant, son court passage à la tête de son pays aura été celui du changement, du passage à la démocratie. Un militaire qui cède son fauteuil au civil sans effusion de sang, ce n'est pas commun, vous en conviendrez. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au général Ali Chebou, qui est en tant que chef de l'état-major général des armées nigériennes, confronté en cette année 1983 à un putsch en préparation contre le chef de l'état Sani Kountché. Un complot ourdi par l'homme lige du président, par son homme de confiance, Amadou Oumarou Dibonkano. Il pense son heure venue.
Comme nous étions là pour dire, monsieur le président, ça c'est pas bien. Aujourd'hui votre frère a cette 4 villas. 50 millions, 50 millions, ça, c'est pas bien. Bon, voilà le genre de trucs qu'on dit au président avec preuve qui gêne le famille. Ce qui fait famille, la famille a décidé, eux, ce jeu, de se débarrasser de Bonkano.
C'est donc dans ce contexte qu'il échafaud de son plan.
Je n'avais pas l'intention d'avoir sur mon dos la mort d'un ami. Donc, dans les discussions, j'ai évité, en tout cas, qu'on attaque son domicile ou on le blesse ou quelque chose arrive à sa famille sur place, ce qui fait que on a fait des propositions rapides, il faut le prendre chez toi, si tu l'appelles, il vient, on le prend sur la route, etc. etc. Ça n'arrive pas à me convaincre. Moi, j'ai fini par négocier son départ. Et j'ai dit, première condition, qu'il ne soit pas dans le pays. Deuxième condition, j'entoure sa maison au moment même de l'opération qu'on ne touche pas à ses enfants et sa femme.
Dans un pays aussi policier que l'était le Niger, un complot comme celui-là ne peut rester longtemps secret. Mais le personnage mis en cause cette fois-ci est trop puissant et trop proche du régime pour que les services de renseignement puissent en informer le chef de l'État avec aisance. Surtout qu'il s'agit de son ami personnel, celui qui l'écoute le plus, son homme lige. Abdallah Wafi, le chef de service des renseignements du président Kountché à cette période.
Nous avions eu vent de ce qui se tramait. Nous avions rendu compte au président Kountché par écrit. Les archives l'attestent, elles sont là disponibles. Nous avions rendu compte verbalement. Nous avons entrepris un certain nombre d'investigations qui n'ont pas abouti. Mais somme toute, compte tenu de la nature des personnalités impliquées dans ces événements, compte tenu de leur lien avec le président Kountché et de la position qu'ils occupaient dans le système sécuritaire, il était difficile de prévenir ce genre d'événements. Et je pense que c'est ce qui explique que malgré les fuites, malgré les soupçons, malgré certaines informations, rien n'a été fait pour mettre fin à cette tentative.
Certains hauts gradés mis au courant ne croient pas non plus à cette rumeur. Ali Chebou, le chef d'état-major général des armées.
Pour nous, c'était incompréhensible que à peine quelqu'un qui sait lire et écrire puisse prendre le pouvoir quand même et diriger un pays.
Et pourtant, malgré l'appréhension des uns et le scepticisme des autres, la rumeur parvient aux oreilles du président Kountché. Est-ce que vous le saviez, Bonkano? Comment a-t-il réagi lorsqu'il a su que vous prépariez ce coup d'état?
Parmi nous, il y avait un qui lui rendait compte 100%. Nous, on ne le savait pas. Bon, les gens, si vous voulez, la police, regardaient certains intérêts qu'ils faisaient, mais ils avaient peur. Parce qu'ils quittent là-bas, ils viennent ici, à certains gères, ils ne comprennent pas. Confidence pour confidence, j'ai même eu ici, un matinée, je prenais le café sur cette table-là, un de mes officiers de police est venu me dire: patron, aujourd'hui là, je suis obligé de parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ça fait 4 jours de manière que je te vois là. Si moi je faisais partie des gens qui devaient faire une enquête, je vous arrête tout de suite. Vous êtes dans un complot. Je dis, pourquoi? Il dit, non, c'est ma formation. Il faut faire attention. Maintenant, il faut essayer de changer le comportement. S'il pouvait retourner dans la même peau, si c'est possible. J'ai dit, bon, moi je ne crois même pas avoir sorti de ma peau. Il dit, si, ça fait 4 jours que vous n'êtes plus sous la terre. De façon de nous parler, et tout est chef. Or, chef égale promesse de chef quelque part. Au début, vous nous parlez en tant que camarade, et nous décidons que vous devenez chef. Et maintenant, vous avez décidé de nous parler en tant que chef.
Contrairement à son habitude, Sénie Kountché va réagir très curieusement. Il n'envoie pas les militaires en finir avec le poulet comme il l'avait fait pour Sanissou Nassido, son ex-vice-président. Certainement à cause du rôle que jouait auprès de lui ce personnage haut en couleur. Il choisit une autre méthode. Il décide de rencontrer son ami Bonkano pour en parler avec lui, d'homme à homme. Un échange franc et sincère dans le pur style de cet homme du Sahel qui se sent investi d'une mission à la tête du Niger. Il est à la veille d'un voyage officiel en France.
Kountché trouvait possibilité de me rencontrer pour me dire cette affaire-là avant son départ. Et il n'avait pas prétexte rapide. Il m'a dit tout simplement, moi je pars pas, cette affaire ne m'intéresse pas tellement. Et puis bon, de toute façon je suis malade, je ne vois pas pourquoi aller s'asseoir au milieu des gens. Je ne sais pas quand ce truc-là, parce que le docteur Gentilini m'a signalé que je risque d'avoir de suites que je n'arrive pas à contrôler, je peux tomber. Et si c'est le cas en France, je trouve que ce n'est pas bien pour le Niger. Bon, il a essayé de me faire avouer, si tu veux, mes besoins de son départ. J'ai dit non, il faut que vous partez. Il m'a dit donne-moi la raison. Même si c'est un, ça suffit. J'ai dit non, si vous ne partez pas, Sankara ne partez pas. Sankara est anti-français comme vous maintenant. À travers Ofoé, vous êtes en train de ménager le français et tout cela. Mitran d'ailleurs a passé visite ici. C'est vraiment, vous ne pouvez pas ne pas partir à son appel, tout cela. Il m'a dit bon, tu m'as convaincu en tant que conseiller, mais moi je suis très te rencontrer demain soir chez toi. J'ai dit oui, mais il n'y a pas de problème. Comme nous voyons chaque fois dans le petit bureau que vous avez vu, où nous devons nous retrouver tout à l'heure. Il m'a dit non, je préfère au village natal. J'ai dit pourquoi? Il dit oui, mais c'est là-bas qu'on prépare le coup d'État. Tu as oublié qu'on a préparé 15 avril là-bas? J'ai dit oui, oui, oui. J'ai commencé à soupçonner qu'il avait quelque chose à dire. Et comme entre nous, nous ne nous cassons rien, en dehors de tout simplement qu'on évite de se tuer. Mais le reste, on peut le dire, on s'en fout. Il m'a dit bon, voilà ce qui m'a amené. Je sais que tu vas essayer de prendre ce pays demain soir. Mais le fait que tu m'as aidé pendant 6 ans pour préparer une opération militaire qui a permis que je suis devenu président, je ne vois pas pourquoi moi je vais vous refuser de devenir président alors que je suis même malade. Les propos que j'ai reçus au cours de certaines de vos réunions me vont direct au cœur. Vous ne voulez pas que je sois tué, vous ne voulez pas qu'on tire sur ma famille et vous voulez m'amener en France et me soigner et me ramener dans mon village natal. C'est très bien. Si c'est Yé qui a choisi ça comme ça, pourquoi pas. Seulement le fait que vous ne voulez pas me tuer, je vais vous éviter d'être tué aussi. Et ce que je vais vous dire là n'est pas pour vous dissuader. Il faut l'écouter bien. J'ai dit non, monsieur le président, à partir du moment où vous êtes au courant et que vous en parlez, ça veut dire que vous voulez que je laisse, il n'y a pas de problème si vous me le demandez. Il dit non, tu ne peux pas. Si tu recules maintenant, tu vas avoir au-dessus de moi parce que je serai obligé de te tuer. Parce que cette affaire va sortir peut-être dans 3 jours. Tellement que tes gens sont devenus des agitateurs ouverts, on ne peut pas. Un officier ne peut pas commencer une opération militaire, l'arrêter. Maintenant, ce que j'ai à te dire, maintenant tu fais ce que tu as à faire. Il m'a dit, tu vas cette armée, tu ne le connais pas. J'allais même te dire, sans que je sois chef d'état-major avant de devenir président, cette armée, c'est mon armée. Tous ces officiers-là sont sortis devant mes yeux. Je les connais tous militairement. Je connais la famille de tout le monde et je connais le caractère de tout le monde. Cette armée, il y a 3 groupes. Un groupe que grâce à moi, je te l'ai remis. Ils ont tellement bouffé, ils sont devenus pour toi. Ils peuvent rentrer dans le feu pour toi, pour sauver leur tête. Mais lui, il utilise plutôt pour sauver leur peau. Il y a un autre groupe qui lui, même moi, je ne peux plus l'avoir. Et il y a un groupe qui m'appartient que tu ne peux jamais avoir. Voilà le problème devant lequel tu vas te retrouver demain soir. Ça, tu ne l'as pas préparé. Et j'ai peur qu'à un certain moment donné, tes mêmes gens-là t'étuient pour donner d'autres explications, te rendre tout simplement le comploteur trahissant son ami pour telle cause, et il s'en sort. Les militaires le font tous les jours. J'ai un autre problème qui est celui de Ali Seibou, chef d'état-major, qui ne prend pas certaines situations au sérieux, peut-être parce que c'est ma présence, ou il ne prépare jamais demain. C'est aujourd'hui seulement qu'il intéresse. Parmi ton groupe-là, il y en a des gens qui ont décidé de le tuer. Mais, je vais te dire aujourd'hui, c'est un cousin direct à moi, et il m'a tellement rendu de service, je ne veux pas qu'il soit tué pour rien. Ce qui fait que le soir, vers 4 heures, c'est moi qui vais lui téléphoner de Paris. Qu'il te rejoigne à Drenne vers 6h, 6h30. Aussitôt arrivé, tu le mets sur clé. Et tu mets certaines gardes autour et tu descends en ville pour faire ton opération. Moi, tu m'as rendu service. Au cas où ça n'a pas marché, il ne faut jamais que je te laisse au pays et que je te trouve au pays. Encore une fois, pour éviter que moi aussi je te tue. Mais j'allais récupérer mon Alice Ebou, que grâce à toi, on a mis en valeur. On va voir ce qu'on va faire de lui.
6 octobre 1983. Alors que le président Sédi Koundé est en visite à Paris, Bonkano, son homme Lige et Marabout passent à l'action. La première partie du plan se déroule sans anicroche. Cette première partie est celle où l'on vient arrêter le colonel Ali Chebou, le chef d'état-major des armées.
J'ai été arrêté comme beaucoup d'autres et on m'a amené derrière le fleuve chez Bonkano. Bon, c'est là-bas où nous avons été transférés et gardés dans les différents locaux là-bas. Je ne savais pas qui est là à côté de vous comme voisin, et ainsi de suite. On sait simplement ceux qui sont dans la même baraque que vous. C'est tout.
Pendant que vous étiez incarcéré, avez-vous vu Bonkano?
Je lui ai même dit, Bonkano, je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Si c'est un coup d'État que vous voulez faire, vous vous trompez. Parce que moi, je ne suis pas seul. Et la personne contre laquelle vous préparez le coup d'État, je crois, ne marche pas seul aussi. Donc, je crois qu'il faudrait réviser vos positions pour éviter au Niger un bain de sang.
Alors que les événements s'accélèrent, le président Sédi Koundé, qui a tenté en vain de joindre Niamey par téléphone, a terminé son séjour officiel à Paris. Il est sur le chemin de retour dans son avion, le Mont Bagazam, qui a été détourné vers l'Algérie aux premières heures de la tentative de putsch par ceux qui se sont présentés comme les nouvelles autorités du Niger. Mais il n'a pas accepté l'exil que lui offrait le président Chadli d'Algérie. Il va tout simplement approvisionner son avion en carburant à l'aéroport d'Alger. Dans la capitale nigérienne, bien que soutenu par quelques officiers dont quelques-uns ont réussi à occuper certains objectifs stratégiques, le coup de force ne se passe pas exactement comme prévu. Amadou Oumarou dit Bonkano.
L'armée, c'est pas l'armoire. C'est quand vous ouvrez, vous fermez comme vous voulez, et quand vous le ouvrez, il se peut que vous trouvez quelques amerdes. Barré s'est maquillé. Il a fermé sa compagnie. Il m'a téléphoné. Il m'a dit de venir, on va négocier. J'ai dit non. On négocie pas. Il n'y a rien à négocier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, je veux savoir où se trouve le chef d'état-major, par exemple. J'ai dit, mais le chef d'état-major, c'est celui qui est à l'état-major. Je suis à l'état-major, je t'attends, tu viens. Il dit, ah non, tu viens ici, on négocie. Il y a d'ailleurs tel officier. Il a cité certains qu'on a cherché chez eux, qu'on n'a pas trouvé, qui sont celui. Tels que Toumba Boubacar et autres.
Au fil des heures, le putsch s'effondre. L'armée régulière reprend peu à peu les positions perdues. Le chef d'état-major, Ali Chebou, est libéré après la fuite de Bonkano, qui a franchi les frontières du pays en direction du Burkina voisin, avant de trouver l'exil en Europe. Novembre 1987. Le président Sédi Koundé reprend l'avion pour la énième fois pour se rendre en France. Il a rendez-vous avec son médecin, le professeur Gentilini. Depuis quelque temps, son état s'est aggravé. Il souffre d'une tumeur au cerveau avec de plus en plus de pertes de connaissances. Devant la gravité de son état de santé, un groupe d'officiers qui compose le Conseil militaire suprême désigne Ali Chebou pour assurer l'intérim du président. Il faut dire que Sédi Koundé, depuis quelque temps, s'était organisé pour qu'il défienne le dauphin par le jeu des galons et de l'ancienneté dans le grade. C'est dans ces circonstances que le 10 novembre 1987, les Nigériens vont apprendre ceci.
Nigériens, Nigériennes, en ma qualité de chef d'état-major général des forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division Sédi Koundé, n'est plus.
Le général Koundé est donc mort après 14 ans de pouvoir sans partage. Ali Chebou, le dauphin, est naturellement choisi par les membres du Conseil militaire suprême pour prendre sa succession. Il assure également la fonction de ministre de la Défense.
Les officiers des forces armées nationales, réunis en séance solennelle ce samedi 14 novembre 1987, décident à l'unanimité et par acclamation, de confirmer au poste de président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, le colonel Ali Saïbou.
Le pays dont il hérite est divisé. Les 14 ans de pouvoir de Séni Kountché ont suscité beaucoup, beaucoup de divisions. Si son souci était essentiellement le développement du Niger et son obsession l'autosuffisance alimentaire, sa soif de conserver le pouvoir a cristallisé les peurs et les frustrations. Elle a rempli les prisons nigériennes. Son successeur, Ali Chebou, en a conscience. Sans renier le bilan de son mentor, il choisit tout de suite une autre option, l'apaisement. Et pour cela, il décide d'une amnistie générale.
Nigériennes, Nigériens, dans le domaine politique, nous réaffirmons notre volonté de respecter les libertés publiques conformément aux dispositions de la Charte nationale. Mais cela va sans dire, nous ne cautionnerons ni désordre, ni anarchie. C'est ainsi que doivent être comprises les récentes mesures de clémence. Dans cet esprit, nous décrétons à compter de ce jour une amnistie générale pour tous les Nigériens impliqués dans les différentes affaires politiques. Ce faisant, nous exprimons notre volonté d'œuvrer à une véritable réconciliation nationale afin que se mobilisent toutes les intelligences et toutes les énergies dans la seule lutte qui en vaille vraiment la peine, celle de la construction nationale.
Mais cette décision, cette amnistie générale annoncée quelques jours seulement après la mort de Séni Kountché, va-t-elle lui permettre de contenir la colère sociale et politique qui gronde au Niger ? Ali Chebou, ce bon vivant, plus passionné par la belote et la chasse que par les joutes et les stratégies politiques, va-t-il parvenir à asseoir son pouvoir, à se faire accepter à la fois des populations, des puissants syndicats qui s'organisent et des autres militaires qui ont des velléités d'émancipation ? Les mois qui vont suivre s'annoncent mouvementés. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous pour une autre série d'Archives d'Afrique la semaine prochaine, même heure, même fréquence.